Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Émilie, Patrick, Pierre, Mohamed, Mathieu et la formidable équipe, enfin une partie de la formidable équipe des Cafés Joyeux. Il y en a 9 en France qui emploient 118 salariés en situation de handicap mental et cognitif. On le précise, c'est important parce que ce sont souvent des salariés qui ne sont pas employés dans la restauration et là, ils y trouvent leur place, leur chance. C'est ça le projet des Cafés Joyeux. On en parle parce que ce soir, deux grands réalisateurs viennent nous voir dans un instant et réaliser une formidable série documentaire consacrée à l'épopée de ces Cafés Joyeux. Donc, je suis entourée de Catherine et de Louis qui ont préparé le dîner. Ça sent hyper bon et il y a entrée, fromage et dessert quasiment ce soir, Catherine.
On a oublié le fromage.
Déjà, plat dessert.
Alors, avec quoi ce soir au menu?
Alors, on a des tartes fines avec une base de piquillos, des tomates rôties, des poivrons rôtis et du thon et des olives à la grecque.
Et ben voilà. Et le dessert, c'est Louis.
Et le dessert, c'est moi. C'est des cookies 3 chocolats et noisettes avec des financiers framboises.
Vous, que la pâtisserie passionne, ouais. Depuis toujours. On parlera de votre histoire, ouais. Parce que voilà, vous n'avez pas toujours été encouragé comme il le faut. On parle ce soir aussi de Rachel, qui a 40 ans, qui a une vie de femme comblée, sans enfant. Elle tombe amoureuse d'Ali, qui est le papa de Leïla, 4 ans, une adorable petite fille qu'elle va aimer comme si elle était la sienne. Aimer les enfants des autres, c'est un bonheur supplémentaire, mais c'est aussi un risque à prendre.
Une description ?
Ah, 1m95.
Je suis amoureux de toi.
Et une petite fille de 4 ans.
Il est parti.
Ah, c'est elle qui l'a quitté.
Papa, tu gênes mal, hein.
Je veux la rencontrer. Je veux rencontrer Leïla.
Ça n'a rien d'évident, tu sais. Les enfants des autres, parfois.
Bonjour. T'as quel âge, Leïla?
4 ans et demi.
Waouh. Peut-être faire un petit bisou?
Ça va, mon cœur?
Oui.
Bonjour Alice, moi je suis Rachel.
Maman.
Bonjour Rachel.
Bah alors, oui, les bisous, les bonjours à Rachel.
Pourquoi Rachel est tout le temps là? Moi je veux qu'elle s'en aille.
Mais si tu crois un jour que...
Elle a 5 ans.
Va pas t'apprendre qu'à cet âge-là, ça veut absolument rien dire.
C'est vrai que tu fais semblant de pas comprendre que je m'attache à elle. À la fin de la journée, c'est vous, son père et sa mère, pour toujours. Que je resterai une figurante?
T'exagères.
Virginie Efira et Roche Dizem sont à l'affiche des Enfants des Autres, le nouveau film de Rebecca Zlotowski, en salle dès demain. Ils sont ce soir notre invité. Ils arrivent à moi-même. Quelle est la musique ? Vous
étiez ici ? On surgit, nous.
Ben oui, vous êtes ici chez vous, Virginie.
Oui, du coup, je m'installe.
Bah, la semaine, il y a 15 jours, c'était Benoît Magimel qui vous accompagnait. Ce soir, c'est Roche Dizem. Vous revenez avec qui dans 15 jours ?
Encore. On va réfléchir à tout ça. On s'en parlera après.
Vous formez un couple avec Roche Dizem dans ce film de Rebecca Zlotowski. Est-ce que vous y avez cru tout de suite ?
Oui. Oui, c'est l'alchimie, justement, on en parlait ensemble. Est-ce que c'est quelque chose d'inné ou d'acquis ? Enfin, est-ce que c'est quelque chose qu'on travaille, qu'on fabrique, ou bien ça existe ? Et c'est là, je pense que ça existe déjà dans la curiosité qu'on a de l'envie de la rencontre. Et quand je rencontre Roche, c'est à la fois... c'est aussi ce que j'ai vu au cinéma de lui, c'est aussi ses personnages. Et puis, c'est quelque chose que je pressens, en fait. Et donc,
vous avez pas été déçu?
Pas trop, non.
Virginie.
J'aime bien parce qu'il est à l'aise.
Virginie est pas loin de la partenaire parfaite. Ça, c'est bien ce que vous avez dit, Roche Dizem.
C'est un interrogatoire de police dans la nuit du 31 décembre au 3 janvier.
Non, c'est vrai. Au point de plus vouloir la quitter à la fin du tournage.
On a envie de devenir son amie, très honnêtement. Parce que il y a quelque chose d'assez magnétique en plus chez Virginie, mais je pense que Magimel aura dit la même chose quand il est venu il y a 15 ouais, jours.
Les acteurs en promo
il a été
général.
Bien plus éloquent.
Ah ouais. j'ai pas vu l'émission.
Dommage.
Mais elle existe en replay.
Oui.
Mais pour en revenir à Virginie, non, mais voilà, on a envie d'être son amie parce que j'ai pris un tel plaisir à travailler avec elle. Elle est très. Elle est très studieuse, j'aime bien comment elle prépare son rôle. Et puis, elle vous invite aussi, elle ne travaille pas seule de son côté. Bon, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais...
Si, c'est très clair. Virginie Millet a 15 jours parce que vous êtes aussi à l'affiche donc, de Revoir Paris avec Benoît Magimel. Et ce qui est dingue, c'est que sur les deux affiches, à chaque fois, ce sont deux étreintes, que ce soit pour l'affiche de Revoir Paris ou pour Les Enfants des Autres. Et l'étreinte qu'on voit pour Les Enfants des Autres, c'est l'un des moments particulièrement émouvants du film. C'est ce fameux câlin sandwich que réclame cette petite fille de 4 ans. Cet enfant qui est à la fois ce qui vous rapproche et qui vous sépare de l'homme que vous aimez.
Oui. Oui, c'est à la fois une découverte, une rencontre. Quand on tombe amoureuse de quelqu'un, ce qu'est le cas de Rachel avec Ali, il y a l'envie de rencontrer cet enfant. Peut-être que toi, au départ, en tout cas le personnage, compartimente un peu plus. Mais il y a ce désir, et puis il cède à ce désir. Et puis il y a une forme d'harmonie qui naît. Il y a un rapport toujours complexe avec l'enfant, parce qu'on ne peut pas demander à l'enfant de vous aimer. Enfin, c'est autre chose. Donc, c'est à la fois une acceptation, parfois du rejet, mais quelque chose qui se construit et qui aussi ranime chez elle. Il y a aussi, je trouve important, le fait de voir cette union entre un père et sa fille, de quelque chose qui les lie comme un amour inconditionnel, familial. Et parfois, déjà qu'on aime quelqu'un, ça vous rappelle votre part manquante, c'est pour ça, tu me manques, on sait que c'est notre part manquante, mais quelque part, je pense qu'elle pressent son manque de elle ne pas en avoir plus, de manière plus vivace par rapport à cette rencontre. À quel endroit on fait lien? Est-ce qu'on laisse une trace à quelqu'un? Et du coup, elle se retrouve face à cette envie compliquée à nommer, d'en avoir peut-être un elle-même aussi.
Et... de maternité.
Oui.
On va longuement parler de ce film qui réhabilite les belles-mères, voilà, la belle maternité ou la belle paternité, ce mot qui n'existe pas dans la langue française et qu'il faudrait peut-être inventer parce que ce lien, il existe de plus en plus souvent. Mais on va tout de suite parler de Rebecca Zlotowski qui vous met tous les deux en scène pour la première fois au cinéma. Ça, c'est L'œil de Pierre qui y est consacré.
Pas pour Rochdy, hein.
Non, mais tous les deux ensemble. Non, j'y ai déjà travaillé.
Les Enfants des Autres, c'est le cinquième film de Rebecca Zlotowski. Rebecca a déjà exploré 4 univers différents, proposant à chaque fois une évidente recherche cinématographique. Et puis, bien sûr, Rochdy, vous l'évoquiez, Virginie, Rebecca a co-créé et intégralement réalisé la série de Canal+, Les Sauvages. On l'a dit, on va le redire, Les Enfants des Autres va marquer, je pense, une date, une borne, un élan dans la filmographie de Rebecca. Je l'ai aussi interrogée tout à l'heure, en compagnie d'Anaïs Recouli, sur une courte liste qui m'est venue après avoir vu le film. On pourrait dire une série de première fois. Dans Les Enfants des Autres, c'est la première fois que vous écrivez seul.
Oui, quasiment, c'est vrai. Alors un peu les effets du confinement.
Ah oui.
Bah parce que moi j'aime c'est pas seulement la dimension collective du cinéma qui me plaît, c'est j'aime bien aller au café. J'aime bien aller au café, prendre des verres avec les scénaristes. Mais c'est vrai que là on était solo quoi. Donc on était un peu dans ses murs, dans sa vie conjugale, dans sa vie familiale. Et on se parle un peu à travers un miroir, donc j'ai écrit seul. Ouais.
C'est la première fois qu'il y a autant de vraie vie partout, de la première image, la première seconde, jusqu'à la dernière.
Alors c'est vrai que c'est la première... J'aime bien. Oui, c'est vrai, on la coche. C'est la première fois que je filme ma ville, Paris, aujourd'hui, pas Paris dans les années 30. Et je pense que ça demande un peu d'impudeur de filmer sa propre ville. Les lieux qu'on connaît, les sorties de métro, les bars, les cafés, nos quartiers, voilà.
Et puis c'est aussi sans doute la première fois, c'est vous qui le dites, c'est le corps et tout ce qu'il inspire, tout ce à quoi il aspire qui vous a inspiré.
Les cinéastes comme moi qui placent très très haut le cinéma ont toujours peur d'aborder un film sans que ce soit un sujet de cinéma lui-même. Mais ça veut rien dire. En vérité, on fait sujet de cinéma avec ce qu'on est. Il m'a fallu longtemps pour autoriser à voir quelque chose qui venait de moi, de mon propre corps. Quelque chose de très simple, avoir bientôt 40 ans à l'époque et être sur le point de voir sa fertilité décliner. Voilà.
Il y a une quatrième première fois, je crois, c'est qu'on a le sentiment qu'au montage, vous n'avez gommé aucune larme.
Ouais. Mais ce n'est pas lié à moi, c'est lié à Virginie Efira, à Roche Dizem, à Chiara Mastroianni, c'est lié aux formidables acteurs que j'avais face à moi. Ils vous renvoient en fait à l'émotion que vous portez vous-même. De temps en temps, on fait faire une scène, on l'écrit, au moment où on l'écrit, on voit bien que c'est un moment qui nous a touchés, qui nous a traversés. Puis on l'a fait jouer et on a un tout petit peu honte, on se dit « oh là là, merde, attends, c'est pas du tout, c'est que ça ». Et puis avec Virginie Efira, je me souviens vraiment de scènes dans lesquelles elle allait au bout, je l'avais pas écrit, hein, Rachel pleure, pas du tout. Et elle terminait la scène en larmes, et je pense qu'il y a 10 ans, j'aurais dit « pop, 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 stop, on arrête tout ». Et là, je disais, d'abord, j'étais émue moi-même, et je me disais « d'accord, ok, ok ».
J'ai même ajouté une cinquième première fois pour Rebecca, qui jusqu'ici avait musicalement nourri ses films avec du classique et même de l'électronique. Là, il y a un peu de Shostakovich, mais il y a Moustaki, Yves Simon, Julien Clerc avec son premier succès, La Cavalerie, en 68. Pour la première fois de la variété française de haut niveau et qui a bien sa place dans Les Enfants des Autres. Et vous êtes contente du couple que vous avez finalement choisi ?
Écoutez, c'était... voilà, on a fait avec ce qu'on a pu. Non, c'est parce que c'était eux, c'est parce que c'était moi, celui-là. Ouais. Vraiment. Merci.
Elle m'a même dit, à propos de la variété française, comme c'est des titres de qualité extrêmement populaires, j'ai envie que dans l'avenir, on dise « Oh, arrête de jouer ta Rachel, arrête de jouer ton Ali ». Voilà.
C'est beau.
C'est chouette.
Pas plus de commentaires.
Non, mais tout est dit. Mais ce qui est beau aussi, et c'est aussi une première fois, c'est qu'elle raconte quelque chose de très personnel.
Ouais.
Et qu'auparavant, elle est toujours allée vers des projets que je qualifierais sans aucune insinuation de plus cérébrale.
Oui, plus intellectuelle.
Quelque chose de plus organique. Et effectivement, elle raconte un peu plus sa vie, telle qu'elle l'a vécue et parfois aussi subie. Et c'est ce qui fait que son film est plus singulier que les autres.
Ah oui.
Oui, il n'y a rien qui vient faire barrage à quelque chose qu'on veut, à un récit qu'on veut raconter. Et le film se déploie sans qu'on veuille le réajuster, en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, Rebecca, qui a une idée de cinéma effectivement très exigeante, mais aussi un désir de raconter avec le cœur, du politique, mais qui est inscrit. Et le film suit son cours. Et moi, c'est vrai, quand j'ai lu ce scénario, il y a une reconnaissance... très intime, moi ça m'a vraiment... Mais pas comme quelque chose, genre je lis le scénario, j'enferme la dernière page, je pleure, oh, c'est un très beau scénario, et quelque chose qui m'a pris pendant la lecture comme un secret enfoui. Je sais pas comment expliquer ça autrement. Et à partir de là, il me semble que c'est une bonne matière pour vraiment faire quelque chose ensemble. Parce que se comprendre, c'est quand même bien.
On va en parler longuement des enfants des autres qu'on a tous aimés. Vraiment, je ne sais pas pourquoi je dis vraiment, qu'on a aimé assez
d'avant. Plus que les autres, peut-être.
Peut-être.
Ouais. Ben oui.
Mais tout de suite, c'est l'heure des Infos Express, enfin de l'Info Express, spéciale dédicace France Gisem. On va parler foot. Mathieu, on a des nouvelles de notre pilote de char à voile.
Bah oui, je voulais vous parler de Capitaine Rémy. Vendredi, nous racontons l'histoire de ce comédien qui a entrepris un Paris-Nantes en char à voile, 400 km. Il est parti mardi dernier, il devait arriver pour jouer sur scène dimanche soir. C'est un collègue à vous, il est comédien. Je ne vous rejoue pas le coach du PSG et sa blague sur le char à voile après un Paris-Nantes en avion. Lorsque nous en parlions vendredi, Capitaine Rémy était à mi-chemin, je vous le dis. Hein. Il est bien arrivé, il a pu jouer dimanche. Il nous a envoyé une petite vidéo.
Je suis arrivé, c'était juste exceptionnel l'arrivée sur Nantes. D'une, parce que la dernière journée, je l'ai fait en compagnie d'autres cyclistes. Et ça m'a vraiment porté jusqu'au bout. Parce que la dernière journée, j'ai encore eu plein de galères. J'ai crevé, j'ai une roue qui a failli s'en aller. J'ai encore pleuré, mais cette fois de bonheur et pas de crispation, mais vraiment de dire attends, je suis heureux d'avoir accompli ça, parce qu'en fait il faut leur montrer que c'est possible. Cet hiver, il y a la Coupe du Monde et honnêtement moi j'aimerais beaucoup que des joueurs prennent des engagements pour ne pas aller à la Coupe du Monde. Le Qatar, c'est vraiment une honte pour le monde entier et pour l'humanité.
Le Paris Saint-Germain qui a aussi fait parler de lui à nouveau.
Mais pas pour sa victoire à Lyon dimanche, mais pour son déplacement. Devinez comment les Parisiens sont allés à Lyon. En avion, bien sûr, de Paris à Lyon, avec Qatar Airways dans une vidéo postée dimanche. C'est un clip promotionnel que vous voyez. Il faut rappeler que Qatar Airways, c'est le sponsor maillot du club. Voyant la polémique émerger, la vidéo a été d'abord supprimée. Il faut dire que Lyon, c'est encore plus rapide que Nantes comme voyage en train. Ça se fait en deux heures. Réaction du ministre des Transports en latin sur Twitter. Une version courte de l'expression « l'erreur est humaine, persévérée et diabolique ». Vous pourriez boycotter la Coupe du Monde au Qatar, on entendait Capitaine Rémy.
C'est bizarre, c'est voyant la polémique arriver, oui, comme s'il pouvait y avoir un doute sur le fait qu'il y aurait une polémique. Genre, bah, il savait qu'il y avait... Genre, on a mis la vidéo, merde, il y a une polémique. Bah, je sais pas, c'était une évidence, je l'aurais pas mise, moi.
Bah oui. Ils auraient fait ça, bon. Ils s'en foutent.
Bah alors, tu retires pas le truc, t'as su.
Mais parfois, on se demandait, sincèrement, s'ils sont bien au fait.
Il y a eu un précédent, mais boycotter la Coupe du Monde comme spectateur, vous voulez dire ?
Oui.
C'est trop tard. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup du boycott de la Coupe du Monde. Elle a lieu dans 2 mois. L'attribution pour organiser la Coupe du Monde, c'était il y a 10-12 ans, je crois. Ouais. Ni les instances politiques, ni les instances sportives, ni les joueurs Même vous, les médias, vous allez rendre compte des résultats. Donc pourquoi aujourd'hui on va prendre en otage le spectateur en disant ne regardez pas la Coupe du Monde ?
Pour être précis, au moment de l'attribution, il n'y avait pas encore eu 6000 morts sur les chantiers, par exemple.
Non, mais on savait à qui on donnait la Coupe du Monde. On savait qu'il y aurait des stades avec l'air conditionné. On savait qu'on irait chercher de la main-d'œuvre au Pakistan, en Inde, etc. On avait tous les éléments. Et bon, on sait qu'il y a beaucoup de magouilles et de corruption au sein des grandes instances comme la FIFA, le CIO, etc. Donc à partir du moment où on prend la décision, c'est pas aux spectateurs et encore moins aujourd'hui aux joueurs de leur dire de pas aller jouer. C'était bien en amont qu'il fallait...
Mais vous le regarderez pas avec le même plaisir ?
Non,
avec
le même regarderai sans occulter l'aberration et sociale et écologique. Mais le spectateur lambda que je suis, que la Coupe du Monde se déroule au Qatar ou au Zimbabwe, nous, ce qu'on aime, c'est le foot. On n'a pas choisi le Qatar. Nous, ce qu'on veut, c'est voir... Et puis, en plus, ça a lieu tous les 4 ans. Alors, cette année, en plus, en hiver. Donc, je n'ose imaginer ce que va donner la suite du championnat après voilà. La Coupe du Monde. Mais ce n'est pas nous qui décidons. Donc, il faut s'en prendre vraiment à...
Et pour mémoire, on a fait la dernière Coupe du Monde en Russie qui avait déjà attaqué l'Ukraine à ce moment-là et envahi la Crimée.
Qui avait envahi la Crimée. Et puis, quid des Jeux de Pékin et puis, surtout, quid des Jeux maintenant, bientôt à Paris On fera les comptes après, mais...
À Paris, vous voulez boycotter les Jeux Olympiques
non,
de Paris ?
Non, mais quand on parle d'écologie, je crois pas qu'on puisse organiser une grande compétition internationale sans problème écologique. C'est illusoire. Enfin, voilà. Ça n'a pas de sens.
Merci beaucoup pour cette réaction. Tout de suite, c'est le vu. Et on parle très vite après des Enfants des Autres de Rebecca Zlotowski. Mais derrière. Mais tout de suite derrière.
Après 10 jours de deuil national au Royaume-Uni, les obsèques de la reine Elisabeth II ont eu lieu dans l'abbaye de Westminster à Londres. 500 chefs d'État et dignitaires étrangers ont répondu présents.
Certaines rues sont quasi désertes en ce jour de funérailles. Rideaux baissés, même les plus grandes chaînes de magasins sont fermées.
Journée historique, les obsèques du siècle de la reine Elisabeth II.
C'est tout simplement la plus grosse opération de sécurité jamais mise en place au Royaume-Uni. Regardez, il y a pas moins de 10 000 policiers qui sont mobilisés. 1 500 soldats sont en renfort. Il y a également des tireurs d'élite qui sont positionnés un peu partout sur les toits.
Le président Poutine n'a pas été convié. Également écartés, les représentants de dictatures comme la Birmanie, la Corée du Nord, la Syrie. En revanche, l'Arabie Saoudite était représentée.
Il y a qu'un mot qui s'en prend parce qu'il y a qu'un mot qui s'en prend.
Non, c'est okay, pas ça. Alors, c'est que tout le monde est en train de faire les hypocrites là, ils n'aiment pas ça.
Ce n'est pas une démocratie, la famille royale, disaient certains analystes. C'est une firme. C'est une firme, disent certains, disent les critiques les plus véhéments. À la tête d'un pays ô combien démocratique qui a inventé la démocratie moderne.
C'est un pays très démocratique, mais la royauté ne l'est pas. C'est au-delà, elle est divine.
C'est une cérémonie extrêmement millimétrée.
Absolument, rien ne doit dépasser. Ce qu'il y a de très original et de très unique avec cette famille-là, c'est qu'ils répètent leurs funérailles.
La monarchie, c'est un spectacle.
Mais Elisabeth II, c'était la première reine cathodique.
Ce qui est incroyable, c'est que ces images sont exactement les mêmes en couleur que pour Winston Churchill, pour Édouard VII. C'est la même disposition.
Vers midi, tout un pays se fige en hommage à la reine.
Au-delà de leurs différences, les Anglais solennels et fraternels ont prouvé que l'histoire d'un pays dépasse les vicissitudes d'une époque. Ce message est universel. À l'heure de la déconstruction et du wokisme, il est un miroir pour une France archipélisée, fracturée ou déchirée, quand de l'autre côté du Channel, jamais le Royaume-Uni n'a aussi bien porté son nom.
Le joug britannique, ça a été l'esclavage, ça a été évidemment le racisme qui s'est propagé, y compris au Royaume-Uni, et le Commonwealth a contribué à entretenir ça. Je crois que le prince Harry notamment a dit qu'il faudrait revisiter ce passé, notamment le Kenya, l'Afrique, le Biafra, les Igbo, 2 millions de morts, le Kenya, 300 000 prisonniers, 100 000 morts, donc la révolte des Maumau. Ça a été aussi, on a accusé, on a reproché à Elisabeth II d'avoir atténué ce qu'a été l'influence de la
couronne. Est-ce que c'est vraiment son rôle de rouvrir les livres d'histoire ?
Les femmes que nous recevons sont atteintes d'un trouble dissociatif de l'identité.
Moi, j'aime pas l'impérialisme. Et elle est le visage de l'impérialisme, comme toute la famille royale. Oh non, absolument pas.
Je me souviens de la mort de mon père. Et c'est idiot, mais je ressens presque la même chose.
Pour la dernière fois, Elisabeth II rejoint le château de Windsor, le berceau de sa dynastie.
On fait une cérémonie d'une importance mondiale, comme une star d'un autre monde, à quelqu'un, finalement, qui est l'héritière d'une richesse, d'une des plus grandes fortunes mondiales, sans aucun mérite, par le seul mérite de l'héritage et de la naissance.
Jusqu'à 2 millions de spectateurs, jusqu'à 4 milliards de téléspectateurs, c'est le chiffre qui a été annoncé.
Depuis le 2 septembre, le groupe Canal+ a décidé de couper la diffusion des chaînes du groupe TF1. Après que le groupe TF1 ait demandé 15 millions d'euros au groupe Canal+, pour des chaînes qui sont gratuites sur la TNT.
Privant les Français d'un grand nombre de leurs programmes, comme
La Villa des Cœurs Brisés,
Mask Singer,
Arnaud Ducray in all his state,
District Z,
Good Singer,
Chef sur TMC,
Stéréo Club,
Visuel Suspect,
ou encore Marble Mania.
De ce fait, nous demandons expressément au groupe Canal+
de ne surtout pas rétablir la diffusion des chaînes du groupe TF1.
On vous appelle le
3680
3243. Non, 3680, c'est TF1, ça, non.
La fatigue informationnelle, et sache que tu n'es pas seul dans ce cas. Ce phénomène y toucherait plus d'un Français sur deux. Aujourd'hui, tu as 53% des Français qui souffriraient de ce symptôme.
Les familles pauvres en Slovénie sont plus riches que les familles pauvres en Grande-Bretagne. Donc c'est un pays, allez dans le nord, venez ici, vous voyez tous ces gratte-ciels, ça boum. Mais si vous allez dans le nord de l'Angleterre, il y a des quartiers mais qui sont parmi les plus pauvres, allez au Pays de Galles, encore moins. Il y a des quartiers qui sont parmi les plus pauvres de l'Europe.
J'ai la mort au bout des doigts.
C'est stylé, non?
C'est super dangereux.
Doit-on rester devant un cercueil pendant 24 heures? Moi, je ne pense pas. C'est mon point de vue. On lutte déjà tellement en ce moment. Demain, ce sera pire. Est-ce que le roi changera quelque chose à ça?
Il n'existe pas de mots pour définir ce lien. On parle de paternité, de maternité, mais jamais de belle maternité ou de belle paternité pour désigner ce qui peut nous unir aux enfants de la femme ou de l'homme qu'on aime et dont on partage et la vie et la famille.
Attends-moi, Leïla. Oh.
Oh, voilà.
Oh, mon capitaine. Oh, comment ça va?
Bonjour, la puce.
Oh, non, 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 non. Ça va?
Bonjour.
Bonjour.
Oui, vous êtes déjà rencontré, je crois.
Ben oui, au judo. En fait, j'étais passée pour régler un truc de courrier. Et puis, je voulais te parler de Jeanne.
Jeanne, oui.
Mais je vous laisse, moi, peut-être. Je monte et je vous attends. À bientôt. Pipi. Ben oui, à bientôt.
Ah, oui, attends, Rachel, tu peux prendre Leïla avec toi, là, avec ton pipi, tout ça.
Ouais.
Ça arrive. Vas-y, Rachel.
Les enfants des autres, c'est le film qui donne enfin le beau rôle aux belles-mères. Est-ce que c'est une bonne définition pour ce film ?
C'en est une bonne et j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs de possibles. En tout cas, c'était un angle mort qu'elle a décidé de regarder, une image manquante. C'est-à-dire que c'était une représentation qui était soit celle de la marâtre, comme chez Disney, ou un second rôle. Ou alors, et on voit bien que ce n'est pas le cas ici, des crépages de chignons fort peu intéressants entre la mère des enfants et la nouvelle femme. Et tout ça est dévié parce que Rebecca, sans cesse, dans son cinéma, dévie des stéréotypes. Mais il y a aussi quelque chose que je trouve de plus large aussi, c'est-à-dire que ça regarde cette période particulière de la vie d'une femme. À 40 ans, les choses, elles commencent aussi quelque part, et puis il y en a d'autres qui se terminent. Et c'est vrai que c'est un film, on a eu beaucoup de témoignages après de gens qui parlent, mais c'est-à-dire que j'étais étonnée de me rendre compte que ça touchait des femmes qui avaient 30 ans déjà, que ça touchait les hommes aussi, parce que je trouve que Rebecca arrive, par sa manière de regarder, à toucher l'essence même de la vie, qui serait l'idée de la transmission, de où est-ce qu'on laisse une trace quelque part. Mmh. Moi, quand je l'ai lu, ça me renvoyait à une solitude, c'est-à-dire cette idée de, je ne sais pas, on prend un train, est-ce que quelqu'un viendra nous chercher ? Ah ben non, tiens. Non, mais c'est aussi une histoire d'amour, c'est aussi une question de, on est aimé, pour combien de temps ? À quel endroit on fait famille ? À quel endroit c'est une union ? Qu'est-ce qu'on fait avec le rejet ? Les prévisions qu'on peut avoir dans l'existence et qui ne se font pas, et que ça vaut le coup quand même. Elle réussit quelque chose de global, je trouve, sur l'essence même de l'existence, en fait. Ah ouais.
Mm. C'est ce que vous appeliez tout à l'heure le secret enfoui de l'histoire de ce film. C'est ouais. Femme de 40 ans en quête de maternité. Je ne crois pas que le sujet avait été traité, en tout cas pas traité de cette façon.
Pas de cette façon. Il pouvait y avoir la femme qui, du coup, part au combat voilà. Pour que ça arrive, ou bien quelqu'un d'affranchi par rapport à ses règles. Et là, il y a aussi un positionnement sur ces questions qui peut être très flou.
Et puis, ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'enfant qu'on ne peut pas materner. On la voit.
C'est ce que le film raconte, ouais. En fait. Ouais. Que ce désir-là, il ne sera pas résolu, mais que la vie, quand même, elle promet des choses.
On peut aider à grandir des élèves, des ouais. Amis, des oui. Sœurs, des ouais. Neveux, et c'est ça qui est magnifique.
Et un petit mot sur aussi l'une des raisons, l'une des bonnes raisons d'aller voir ce film, c'est la façon dont Rebecca vous filme Virginie. C'est ce regard qui est porté sur vous, mmh. Et qui est... réellement admirable de bout en bout, la façon dont vous portez ce film. Moi, j'ai pensé à la façon dont sautait filmé Romy Schneider dans... voilà. c'est l'image qui m'est venue et elle a fait de vous, en quelque sorte, son double, puisque
oui.
Son père dans la vie et votre père dans le film,
ouais.
Michel Zosowski.
Mais un acteur, il sent comment il est regardé, justement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça fait penser à une phrase, la fille qui veut absolument faire une citation de Flaubert, de toute chose regardée assez longtemps devient intéressante. Le personnage, là, c'est quelqu'un de pas de banal, mais de pas, c'est pas non plus... mais elle la regarde tellement par tous les prismes qu'il y a quelque chose...
d'assez héroïque.
Qui se met en place. C'est pareil avec Rojdi, hein. Pareil dans le couple, enfin, oui.
On n'aurait pas pu faire ce film il y a 20 ans, Rojdi, parce qu'on ne s'y intéressait pas.
Non, c'est vrai que je trouve que Rebecca fait partie d'une nouvelle dynamique autour d'une sororité très moderne, très intelligente, et qui donne justement la part belle à ces personnages qui étaient souvent dans l'ombre, dans le cinéma qu'on a vu, aimé, des années 80-90. Et c'est vrai qu'elle met la lumière là où elle n'existait pas forcément auparavant. Et ça donne, moi je vis ça comme un privilège. Mon rôle à l'intérieur de ce projet, c'est vraiment, comme disent les Américains, le supporting actor. Je suis là pour soutenir l'histoire d'une femme interprétée par Virginie. Et c'est un vrai privilège, c'est une très belle invitation finalement, parce que on omet aussi de raconter qu'il y a une très très belle histoire d'amour, et avec tout ce qui a tous les ingrédients, c'est-à-dire le baiser sur le quai de la gare, la fausse pluie, etc., tout ce cinéma finalement qui nous a fait rêver et qui nous fait encore rêver, et c'est très joli, et il y a toute la sensibilité aussi de Rebecca. J'ai pas été souvent confronté à ce genre de rôle. Donc forcément, pour moi, c'est une expérience enrichissante.
On rit aussi dans ce film, notamment la scène du film dans laquelle vous agitez, je vous cite, vos parties molles. Je vous cite, Virginie.
Il y a des phrases qu'on s'en dit pourquoi, on les a dites parce qu'elles vont être répétées.
Ben oui,
et surtout, elles vont être retenues par...
Oui, en fait, c'est une scène où...
vous êtes sur le balcon.
Non, en fait, on est ensemble au lit et la petite se réveille et elle ne sait pas que je suis là. Donc, je sens qu'elle va venir dans la chambre. Mon Dieu, je ne peux pas lui imposer ça. Salut, bonjour, je suis de passage. Donc, j'essaye de partir et il y a comme seule possibilité le balcon. Et effectivement, dans le plus simple appareil. Et donc, oui, c'est la première fois que je faisais une scène nue où tout le monde rigolait après. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Donc, oui, parce que les parties molles, quand elles balancent, c'est amusant. Enfin, voilà. Voilà, une agitation. Elle m'avait donné une toute petite chose pour me cacher derrière.
Et
comme on n'était pas dans une super production, je veux dire, au niveau de l'argent, quoi, c'est pas comme si on avait pu, sur le tournage, vraiment se défaire du regard de toutes les fenêtres aux alentours.
Ah, oui, donc tout le monde voyait.
Vraiment. Oui.
Ouais. Ah, ouais, c'était au spectacle.
Ouais. T'as mis énormément de temps avant de me rouvrir la porte.
Ouais.
Genre
un peu, j'ai senti qu'il y avait un truc d'amusement.
C'est vraiment comme ça qu'on a envie de faire durer. Bien sûr, on fait partie.
Mais il n'y a rien de mou chez vous, Rochdi. Non. Parce que vous faites beaucoup de sport.
Allez, à tout à l'heure.
Vous vous entraînez énormément. Pourtant, vous êtes incapable de vous mettre en maillot de bain sur une plage. Résultat, c'était tout sauf évident de tourner des scènes dénudées. Mais là, dans l'objectif de Rebecca Zlotowski, ça avait du sens.
Ouais.
Ça commence mal, mais ça finit un peu mieux, ma question.
C'est vrai, j'avoue. Mais c'était un peu le pari et c'était un peu la promesse qu'on s'était faite. C'était vraiment une forme de lâcher prise de ma part. Et c'est vrai que là, tu as quelque chose, tu as une vraie liberté aussi avec ton corps. Enfin, c'est l'impression que ça donne, en tout cas.
Ouais, au cinéma, surtout.
Et j'ai tort. En tout cas, c'est ce qui m'a paru. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé. La facilité avec laquelle tu peux te mouvoir, le regard de Rebecca, toutes ces choses-là, bon.
Bah ça, voilà, ça va dans les deux sens, en fait, ouais. Parce que Rebecca avait à cœur de filmer Rochdi en déconstruisant une certaine virilité, son côté, enfin, des choses qu'on aime. Ah oui, oui, bah, non, mais une force tranquille d'homme et tout ça, et de déconstruire un peu ça, c'est-à-dire dans leur rapport amoureux, c'est elle qui le regarde le matin sous la douche. Il y a quelque chose de beau à ce regard-là aussi. Je pense que ce que j'ai aimé, c'est que Rochdi puisse se déplacer parce que cette pensée-là lui plaisait aussi. Et pareil, du coup, moi, ça m'entraîne aussi à ce qui est juste pour qu'une intimité puisse naître. Il y a une mise à nu, c'est pas forcément enlevant nos vêtements et c'est la fête. C'est pas ça, c'est qu'il y a un endroit du non-déguisement et du non-masque, quoi.
C'est une belle histoire d'amour, une belle histoire de femme, une belle histoire de famille et les enfants des autres, et c'est en salle demain. Oui. C'est signé Rebecca Zlotowski. Je vous ai coupé la parole.
Non. Je voulais dire simplement que c'est vrai que Rebecca bouleverse les codes. Par rapport au rôle masculin, féminin, etc. Et du coup, il y a une espèce d'amalgame de tout ça, et voilà.
C'est une réussite.
C'est ça qui est intéressant.
Tout de suite, c'est Zoé Bruno, GTA ça.
Et on va aller s'asseoir.
GTA ça.
Merci pour le déguisement. J'ai l'air d'une vieille petite fille. On échange de costumes.
Ah non. Aussi. Non. C'est l'anniversaire de Victor, c'est son rêve de me voir comme ça. Puis blonde, moi, ça m'a traumatisée. Tu sais, j'avais été tester la décolo chez le petit coiffeur du coin.
Oh, lui, il est nul.
Il est...
En reconversion, fin d'apprentissage.
Ah, en fait, je suis un petit peu votre cobaye, quoi.
Ah,
mon body jaune, déjà, là. Oh là là. Ah oui.
On se détend.
Enfin, on va pocher le petit coiffeur du coin pour faire une décoloration. Enfin, le cheveu, c'est un art.
Et puis, ça s'est mis à me gratter, là.
Suffit, oui. Ah. Oh.
T'as jamais été très endurante à la douleur, hein. Enfin, c'est normal si ça picote.
Aïe.
C'est normal si ça picote.
Non, mais là, ça picote pas. Ça brûle carrément. Il y a un truc qui va pas.
Oh, au feu les pompiers. Bon, ben, je vais regarder. Oh, oh.
Oh, oh, quoi, oh, oh. Quoi, oh, oh. Oh, oh, mes cheveux ont fondu dans le bac.
Oh, 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 oh.
En apprentissage. Non mais tu te fous de ma gueule. On dirait Plastique Bertrand. J'ai plus des cheveux, j'ai des touffes. Retourne faire des frites sur la plage, espèce de naze.
Tu rates tout, je suis nul, je suis complètement nul.
Oui, tu rates tout et t'es nul et t'es complètement nul.
C'est une merde.
T'es une merde.
Tu es un flop.
T'es un flop. Il m'a reteint les cheveux, il m'a collé des extensions, ça m'a coûté une blinde, mais personne n'y a vu que du feu. Tout ça pour dire que j'échangerai pas de costume.
Je le déteste, le mien.
Mais dans la vie, on peut pas toujours avoir ce qu'on veut. Regarde-moi, par exemple. J'étais à ça de devenir blonde.
Ah. Virginie Rochdi, bienvenue à la table de C'est à vous, aux côtés d'Éric Toledano et Olivier Nakache. Bonsoir, bienvenue à tous les deux.
Bonsoir. On est vraiment
ravis de vous accueillir pour parler de L'Épopée Joyeuse, la série documentaire que vous coproduisez et qui sera diffusée à partir de jeudi soir sur Canal+, qui met en lumière le Café Joyeux, cette formidable chaîne de restaurants inclusifs qui emploie des salariés en situation de handicap mental et cognitif et qui réinvente l'entrepreneuriat du 21e siècle. Tout de suite, une mise en bouche.
Pour nous, c'est inattendu. On n'avait pas prévu ça il y a 6 mois. Et ici, au Café Joyeux Champs-Élysées, nous recrutons 19 équipiers joyeux supplémentaires. Ce qui fait que, pour Café Joyeux, cette petite start-up solidaire, nous avons maintenant 51 équipiers joyeux.
Vous donnez un sens, je crois, à votre vie, mais aussi à la vie de beaucoup de gens. Il y a les engagements qu'on peut prendre, il y a ce qu'on dit, et puis il y a celles et ceux qui font. Vous êtes en train d'inventer ce qu'est l'entrepreneuriat du 21e siècle.
Voilà pour cette mise en bouche de l'épopée joyeuse. Et ce soir, il fallait forcément qu'on dîne avec deux cuisiniers du Café Joyeux, Catherine et Louis. On est très heureux de vous accueillir ce soir autour de la table de C'est à vous. Louis s'est occupé des desserts et Catherine et Louis du plat. Qui est une pizza, mais non, pas du tout.
C'est une tarte fine avec une... J'ai oublié la...
C'est une recette de Thierry Marx, quand même, que vous avez reproduit.
Avec un trio de poivrons, des tomates cerises, du thon, des olives et... C'est quoi le...
Basilic.
Du basilic. Voilà.
Et des financiers aux framboises et des cookies.
Voilà.
Il y a longtemps qu'on n'a pas eu une assiette pareille.
Oui, c'est vrai.
Merci.
Et juste un mot, Louis.
C'est la générosité, toujours.
Louis est fan de pâtisserie depuis toujours, mais on vous a un peu découragé de vous lancer là-dedans parce que vous avez eu un accident de voiture qui vous prive de l'usage d'une main.
Voilà.
Et c'est sa belle-mère, on en parlait, qui lui a dit, dis donc, Louis, la pâtisserie, c'est pas pour toi.
Voilà, c'est ma belle-mère qui m'a dit, Louis, un jour, je lui ai dit, mais je voudrais faire de la pâtisserie. Elle m'a dit, dans tes rêves, mon coco, avec une main, t'arriveras pas. Elle voulait me mettre en portion, donc déjà, c'était mort. Et donc, mon père, il m'a soutenu là-dessus. Donc après, j'ai fait... ça perd la belle-mère. Après, je suis rentré à la SAS Bernard Wibo dans le 14e arrondissement, où j'ai appris à faire de la pâtisserie. Et après, je me suis accroché à mon rêve et j'ai intégré le Café Joyeux.
Le Café Joyeux, voilà.
Et Anne-Elisabeth a trois bonnes raisons d'aimer l'épopée joyeuse.
J'ai adoré l'épopée joyeuse. L'inclusion, c'est un fil rouge dans votre filmographie à tous les deux, à nous faire pleurer de rire et d'émotion. On s'en souvient dans Intouchables, 20 millions de spectateurs pour un film qui, l'air de rien, a changé justement le regard sur le handicap. En 2019, hors normes. Ce film si rare, si intense, rendrait un immense hommage au combat que des femmes et des hommes engagent tous les jours au service des personnes autistes, hors normes, qui a été projeté à l'Assemblée nationale. Et c'est là que l'aventure a démarré pour vous et le Café Joyeux, je me trompe ?
Pas du tout.
Parce que était présent le fondateur des Cafés Joyeux qui vous dit « Venez donc prendre un café chez moi ». Et là, qu'est-ce qui vous a frappé l'un et l'autre ? L'ambiance qui régnait dans ce café ?
C'est-à-dire que c'est un endroit social par excellence et on se retrouve effectivement avec... un exemple formidable d'inclusion. Donc, pour préciser, tous les serveurs et tous les cuisiniers donc, sont, comme vous l'avez dit, dans une situation de handicap. Et en fait, ça se passe... c'est tout ce qu'on aime, en fait, avec Olivier. Ça se passe super bien. C'est pas du tout une barrière. Il y a une ambiance. C'est convivial. Et donc, on voit Yann Bucaille qui nous dit « J'ai vu hors normes et j'aimerais vous parler de ce projet. » On a déjeuné avec lui. Et puis, il nous a raconté. Et puis, ce qui est marrant, c'est que quand il fait cette interview, il dit à Macron qu'il y a 50 équipiers joyeux. Hier soir, il a annoncé qu'il y en a 118. Donc, il n'arrête pas d'avancer. Canal+ cherchait des portraits d'éclaireurs, de gens qui ont envie de changer le monde. Nous, on a rencontré cet homme-là. On ne va pas faire des films sur chaque personne qu'on rencontre, mais on avait envie de faire quelque chose sur lui.
Sur lui qui change le monde, qui change des vies, parce que cette aventure, elle change des vies, notamment celle de Stéphane qui a signé pour la première fois de sa vie un contrat à durée indéterminée.
Merci.
Bravo, Stéphane.
Enfin, merci, Yann. Merci, Marguerite.
Bravo.
Je suis ému. J'ai l'émotion. Là. C'est mon premier CDI de ma vie, quoi. Donc, je suis vraiment ému, quoi.
Mais c'est à nous de jouer maintenant, Stéphane.
Oui, je sais. C'est que ma vie va changer du tout au tout. Ça va mûrir, ce que j'ai dans la main. Ça va mûrir.
Ça vous plaît ? Il y a 9 cafés joyeux aujourd'hui, Rennes, Paris, Bordeaux, Lyon, Tours et même Lisbonne. C'est un tour de force parce qu'à chaque fois, c'est un combat contre les préjugés pour ouvrir un café.
Les copropriétaires nous ont reçus au lance-pied en disant « De toute façon, votre projet, on n'en veut pas. De toute façon, vous n'avez pas le droit d'ouvrir là. » On savait très bien qu'on était totalement dans le droit, on n'aurait pas acheté ce bail. Et je me souviens mot pour mot avoir entendu, je l'ai même noté dans mon cahier, « De toute façon... » On va vous pourrir la vie. Si vous voulez vraiment monter votre café joyeux, on va vous pourrir la vie. On vous mènera la vie dure.
C'est un obstacle majeur parce qu'on n'a pas accès à l'électricité, parce que la copropriété nous empêche de poser notre compteur. Ça peut paraître complètement anodin, mais en fait, ça change tout parce que sans ce raccordement, on ne peut pas ouvrir.
des copropriétaires qui sont prêts à tout pour qu'un café joyeux n'ouvre pas dans leur immeuble.
C'est quoi le moteur?
Dingue.
C'est révoltant, quoi. Ça en dit long sur le fait que la société, elle préfère détourner le regard, c'est ça,
ouais,
Olivier?
C'est exactement ça. C'est, en fait, quand on a démarré cette aventure, nous, on a confié la réalisation à un de nos collaborateurs qui s'appelle Paul Frère, et on lui a dit, écoute, suis Yann Bucaille, suis les équipiers joyeux, et on verra s'il y a matière à faire quelque chose. On savait vraiment pas quoi. Et en fait, au fil des jours, au fil des semaines, on s'est rendu compte de tous les obstacles que Yann doit surmonter. Je pensais que ça n'existait plus, enfin que c'était terminé, mais non. Et ce que fait l'entreprise des Cafés Joyeux, c'est de mettre la fragilité au cœur des villes. Mais on ne se rend pas compte à quel point c'est utile pour tout le monde. C'est utile pour nos enfants, c'est utile pour nous, c'est utile pour tout le monde. Et évidemment pour eux, on a vu là Stéphane avec son CDI, ils sont tellement contents de travailler dans des milieux dits ordinaires, ça change tout. Et c'est vrai que ce passage-là à Bordeaux, donc il est toujours ouvert hein, à Bordeaux, et Yann va peut-être aussi en ouvrir un deuxième à Bordeaux, ça nous montre encore qu'il y a encore du travail à faire pour réussir toutes ces tentatives d'inclusion qui marchent.
Mais c'est vrai que la question de Virginie, c'est quoi le moteur de ceux qui...
Oui.
C'est quoi leur moteur? C'est juste qu'ils ne veulent pas d'ennui.
Le principe des cafés joyeux, c'est que ça s'installe dans des beaux endroits. Donc il y en a un sur les Champs-Élysées, il y en a un en face de l'Olympia à Paris, il y en a un à la Bourse. Et dans les villes, c'est dans les beaux endroits. Alors parfois, vous venez avec des personnes différentes dans les beaux endroits. Il y a des gens qui pensent que ça va déprécier l'endroit, peut-être déprécier l'immobilier. Je ne sais pas en tout cas quels sont les moteurs pour répondre à Virginie, ouais. Mais en tout cas, c'est une réalité. Il y a quelque chose de formidable dans l'aventure. Il y a aussi, dans ce documentaire de Paul, tous les obstacles à surmonter. Et évidemment, il y a un passage sur le confinement qui fait, et on voit Louis d'ailleurs pendant cette période, où c'est très compliqué pour eux qui aiment aller travailler de s'arrêter, comme tous les gens qui ont évité des cafés, évidemment, mais parfois peut-être encore plus pour eux. Mais
peut-être que s'ils goûtent les financiers de Louis, là, ils changeront peut-être d'avis rapidement, parce que je vous assure, ils sont irrésistibles.
On va les goûter, on y vient,
Il va falloir y aller, oui.
Sur la question de la visibilité des handicapés, Emmanuel Macron a rappelé, il y a un peu plus de deux ans, a fait un rappel à la fois révélateur et significatif, c'était lors de la première conférence nationale sur le handicap en février 2020.
Je crois que le premier combat, c'est celui de cette mobilisation et de la capacité de tous les acteurs à travailler ensemble. Un de mes prédécesseurs en ces lieux, le général de Gaulle, avait une fille, Anne, qui était atteinte du syndrome de Down. Et dans ses mémoires, il a une phrase très belle dans laquelle il disait que sans elle, il n'aurait sans doute pas fait ce qu'il a fait.
C'est extrait de votre doc. La phrase est belle, mais la fille était invisible.
Oui, mais je pense en tout cas que toute la démarche qu'on a depuis le départ, c'est-à-dire, et surtout grâce au film hors norme, en tout cas, ce qui a eu comme conséquence, c'est de se dire, il y a ce qu'on appelle la norme et il y a ce qu'on appelle la marge. Et c'est cette classification qu'on remet en cause. Et qu'on essaye de questionner, en tout cas. Ça nous dit quoi dans notre société de classifier justement qu'il y ait une norme et qu'il y ait des gens qui ne le soient pas dedans? Nous, on pense que tout ce qu'on peut faire, en tout cas avec les images, parfois plus qu'avec des discours, envoie des émotions, envoie des feelings, on va dire, et que les gens peuvent le recevoir. J'espère que ce doc participera, comme d'autres choses qu'on essaye de faire et des suites qu'on essaye de donner au film, parce qu'on a aussi des témoignages de gens qui nous disent vous êtes embarqués avec nous, faut pas lâcher, et on n'a pas envie de lâcher.
De l'émotion, vous en fabriquez aussi avec un autre programme dont vous êtes à l'origine, qui donne la parole à des personnes hors normes. Très joyeux lui aussi, c'est la nouvelle émission de France 2, Les Rencontres du Papotin, où des journalistes autistes interviewent des personnalités. On a vu le premier épisode avec Gilles Lelouch qui a cartonné. Formidable. Plus de 3 millions de téléspectateurs. Rochdy, vous avez répondu aussi aux questions atypiques du Papotin. Ce n'était pas encore une émission de télé, mais on a des images, c'était en 2016.
Vous avez joué dans des films d'action?
J'ai fait des films d'action quand j'étais plus jeune. Maintenant, j'ai 50 ans, j'arrive plus à courir vite et j'arrive plus à faire des bagarres parce que je suis obligé d'avoir une doublure parce que dès que je me bats, je me fais mal au dos et je suis coincé après. Donc,
une doublure?
Voilà, une doublure, un cascadeur.
C'est pas dans différents films, les doublures?
Les doublures, voilà, pour les cascades et les bagarres.
Donc, d'abord, vous prenez la place de la doublure pour le bisou-bisou.
Ça, dès qu'il y a un bisou, c'est moi.
C'était une expérience extraordinaire.
Un moment incroyable. J'ai écouté d'ailleurs Gilles en parler chez vous. C'est sans filtre. Moi, je me souviens qu'il y avait une question, c'est « J'ai vu votre film, je me suis beaucoup ennuyé. » C'est un moment incroyable, c'est un moment formidable. Vous le savez mieux que moi, quoi. C'est vraiment une expérience. Et j'étais hier soir, justement, avec Eric et Olivier, parce qu'il y avait des remises de diplômes de l'équipe Joyeuse. Et pareil, c'est-à-dire qu'on est en empathie avec eux, mais jamais dans la compassion. Parce que c'est des gens qui travaillent. C'est très bon, on en est témoin. Ils font un café, je le dis, hein, parce qu'il est en vente. Excellent. Le torréfacteur a été élu meilleur ouvrier de France. Donc c'est important. C'est-à-dire, il ne faut pas y aller en se disant on va leur rendre service. Non, non, c'est eux qui sont là pour vous servir avec d'excellents produits. Donc, voilà, je trouve que c'est des démarches comme celle du Papotin et celle de l'équipe Joyeuse qui font plaisir à voir et à vivre.
En 1999, Éric Olivier, vous réalisez votre premier court-métrage, Les Petits Souliers. Avec, avec Roger Zem, on a quelques petites archives, mais on va quand même diffuser plutôt votre première interview télé. Franchement, c'est une dur. Belle réussite. Hein.
C'est dur, physiquement, je pense.
Et vestimentairement.
L'idée du scénario, c'est une boîte d'événements qui recrute des jeunes pour faire le Père Noël à domicile le 24 décembre au soir. Et le 24 décembre au soir, les Français fêtent Noël en famille. Et ceux qui restent, évidemment, sont ceux qui ne fêtent pas Noël, donc les Maghrébins, les gens de la communauté juive.
Le scénario, apparemment, avait plu à un des acteurs qui s'appelle Gad Elmaleh. Et c'est vrai qu'à travers Gad Elmaleh, on a fait pas mal de rencontres. Un court-métrage, pour nous, c'est un appel. Hein. C'est comme vraiment une pièce de carte de visite. Nous, ce qu'on aimerait faire, c'est montrer qu'on sait faire du cinéma, qu'on sait faire de la mise en scène. Et on aimerait avoir un projet. Là, ça fait 23 minutes. On aimerait rajouter une heure.
Vous avez quand même eu la chance de le présenter au Festival du film de Paris. Mais le plus important, qui a eu l'idée de cette interview dans les escalators?
C'est le même qui a eu l'idée des fringues qu'on a mises. Ce n'était pas une bonne idée.
On peut quand même en profiter aujourd'hui pour remercier Rojdi.
Jamel Debbouze, Gad Elmaleh. Ouais.
Voilà, ces acteurs-là qui ont posé leur regard sur nous, qui nous ont fait confiance. On venait de nulle part avec ce court-métrage-là. Et d'avoir Gad, c'était en 98 ou 99, Roche Dizem, Atmen Khelif, Gilbert Melki, qui nous ont fait confiance. Et c'est ce court-métrage qui nous a fait éclore, en fait.
C'est une élégance géniale qu'il y a chez les acteurs. On peut le dire, quand même. C'est quand même, quand il y a des courts-métrages, de venir, de ne pas être payé, de se lever à 5 heures un dimanche.
Confirme, ouais, pas payé.
Mais c'était un souvenir exceptionnel.
Ouais, c'est un souvenir incroyable. On en parle encore avec Jamel et Gad. Surtout quand on voit après la trajectoire qu'est la vôtre, c'est sûr que c'est inoubliable. Ouais.
Des cafés joyeux, le sens de la vie, le sens de la fête, c'était en 2017, une pléiade de comédiens. À l'époque, on en avait reçu 3 sur le plateau, ils nous avaient dit du bien de vous.
Soledad Menakache est quand même des génies de la comédie en France, au niveau de l'écriture, de la qualité même de la mise en scène, etc. C'est formidable.
Tout en étant quand même un peu surestimé.
Un chouïa. On a travaillé avec eux.
Oui, on peut vous
dire. Non,
oula.
Faut arrêter. Les acteurs sont pour beaucoup, quand même.
Il
paraît que sur le tournage du Sens de la Fête, Bakri vous disait « Mais vous n'êtes pas normaux, engueulez-vous de temps en temps. »
Ouais, c'est vrai qu'il nous disait ça, il nous appelait les frères qui n'ont pas le même nom.
Ouais.
Et il était assez surpris parce qu'il nous disait, mais moi, avec Agnès, de temps en temps, ça chauffe un peu. Mais c'est vrai que nous, on a une technique, c'est que si on a un débat, on le fait entre nous.
Ah ouais, vous dites, on change de pièce.
Ouais, pas devant les enfants, des autres et des nôtres. Les enfants, que sont les comédiens. Et c'est vrai qu'on s'engueule rarement et il nous posait souvent la question. Et il essayait de faire en sorte.
Il essayait.
Voilà.
L'épopée joyeuse, le premier épisode, c'est jeudi 22 septembre sur Canal+, les rencontres du Papotin, c'est samedi à 20h35 sur France 2. Et là, c'est Camille Cotin, c'est ça?
C'est Camille Cotin.
Camille Cotin, voilà. Et Virginie bientôt,
j'espère. Oui.
Voilà, c'est formidable, ces rencontres du Papotin. Moi, j'adore, génial, ça me fait pleurer. Beaucoup, et l'épopée joyeuse aussi. Les enfants des autres, c'est dans les salles demain, 21
demain.
Septembre. On conclut cette émission. Excusez-moi, il y a eu une aparté, là.
Non, je demandais à Virginie si elle l'avait déjà fait. Le Papotin.
Non, mais non. Mm-hmm. La réponse
mais ça
est non.
Se retarder.
Merci, Angélie. Tout de suite, c'est les actualités de Bertrand pour conclure l'émission.
Bonsoir à la une de ce 20 septembre. Jusqu'ici, nous vivions dans le déni, mais le moment est venu de se rendre à l'évidence.
C'est fini les salades.
Oh oui.
Quoi?
C'est fini les salades.
Les salades, c'est fini, mais les grillades. Ne me dites pas que les grillades.
Saucisse merguez, c'est fini, là.
Bordel, je crois que ça y est. Nous y sommes.
Ça y est, l'automne arrive.
Oh non! Ça y est, l'automne arrive, nous entrons le tunnel dit du cafard. Il va faire nuit à 16h, on va passer nos soirées en plaid à regarder des replays de 90 minutes enquête sur des gendarmes dans le sud de la France en se gavant de mon chéri, en se disant que le pilou, oui c'est laid, mais Dieu que c'est confortable. Allez courage, on est ensemble, on se retrouve dans 8 mois. Heureusement en face, sur France 2, quand on informe, on le fait avec poésie. Ce midi, contre toute attente, Baudelaire a signé un sujet dans le 13h.
La gare était fermée, abandonnée. Jean-Phil l'a racheté et rénové. Juste à côté, les passagers commencent à embarquer. Les passagers
voilà, nous a pris.
Vont pouvoir acheter
16 euros, s'il vous plaît, les retours.
D'autres types de billets, du car au TGV.
Et je crois qu'on avait bien compris que tu avais acheté le dico des rimes en haie. Heureusement, dans ce bas monde, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Depuis l'été, mon cœur saignait jusqu'à ce week-end où se tenait, où s'est ouvert même le 73e International Astronomical Congress, congrès international de l'astronomie, Mohamed, avec du beau monde sur scène.
So to welcome you all here to France and to this magical city, I'm very pleased to welcome...
Mais qui ? Angelina Jolie, Penelope Cruz, Scarlett Johansson ?
Madame Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France on stage.
Oh. Oh. Mais non. C'est le plus beau jour de ma vie, Babette. Le comeback de Valérie Pécresse, ça me ferait presque oublier l'arrivée de l'automne et la fin des grillades et des salades. Alors attention, je préfère prévenir Patrick. Vous attendez de moi que je me gausse de sa prestation. Non. Ça, c'était avant. Tout le monde a le droit à une seconde chance. Elle a changé, et moi aussi d'ailleurs. Et pour être très honnête, la prestation de Valérie Pécresse était impec. Anglais irréprochable, elle était à l'aise, détendue, aussi véloce que virevoltante. Curieusement, c'est quand elle a parlé en français que ça a déraillé, alors qu'elle évoquait la conquête spatiale. Comme le dit le proverbe, chasser la républicaine, elle revient au galop.
Dans la décennie, nous savons que la coopération internationale dans le cadre de l'ISS, va s'achever.
Eh oui, l'ISS, Valérie, oui, tout ça pour ça, mais j'étais content de la retrouver. Tiens, quelle heure est-il ? Il est l'heure de parler foot et ce message pour les Bleus, s'il vous plaît, ne portez plus de montre en conférence de presse.
C'est vrai que quand on regarde un peu vers l'arrière...
J'ai posé la même question tout à l'heure à ton collègue Benoît Badiachil, mais il y a beaucoup de blessés.
Waouh, j'ai perdu. Allez, visiblement, tout roule chez les Bleus en ce moment.
Comment ça va ?
Ça va, mais pour être tout à fait complet sur la citation de Patrick Sébastien, comment ça va ? Comme ça, fin de citation. Même Mbappé n'y croit plus, il dit que ça va, mais son visage dit le contraire.
Et ça va ?
Et toi, Kylian ? Tout va bien ?
Très bien. Très bien.
Ouais, très bien. Ouais, c'est vrai qu'on a connu le meilleur contexte pour l'équipe de France entre les polémiques, char à voile, maraboutage et les joueurs blessés. C'est une véritable hécatombe. Qui pose cette question ? Qui va jouer jeudi, vu le merdier ? Voici un jeu qui intéressera petit comme grand. Vous connaissiez qui est-ce ? Découvrez. Qui est-ce sélectionné ?
Est-ce que son frère est mis en examen ?
Non.
Est-ce qu'il est touché à la cheville droite ?
Non.
Est-ce qu'on ne connaissait pas son nom hier ?
Oui.
Est-ce qu'il est pizzaïolo dans le civil ?
Oui !
J'ai trouvé, c'est Jean-François Pichard du restaurant chez Mario.
Eh oui, et pour l'achat d'un qui est sélectionné, découvrez un kit clean à la NUPS.
Vous êtes sérieux ? J'ai gagné.
Ouais, ça a cartonné pour les fêtes. Et c'est vrai qu'on a connu meilleure ambiance à la NUPS. Patrick en parlait dans son édito, ambiance que je qualifierais d'enterrement, même si la crémation de mon oncle était plus festive. Il y avait des curlis après la cérémonie. Aujourd'hui, les cadres de LFI tenaient un point presse, mais personne n'avait envie de répondre aux questions concernant l'affaire Quatennens et le tweet de soutien de Jean-Luc Mélenchon.
Que pensez-vous du tweet de Jean-Luc Mélenchon ? Est-ce que, pour une fois, vous l'avez trouvé déconnecté ?
Non, vas-y, toi, non, je veux pas, vas-y toi. Allez, démerde-toi.
Je pense que ce sur quoi nous voulons insister, c'est le fait que c'est d'où le communiqué de presse de la coordination, la mise en retrait de Adrien Quatennens, c'était nécessaire.
Titanic 2, actuellement, sur vos écrans. Dans le reste de l'actualité, c'était le rassemblement du moment. Si vous aimez la fiesta et l'humour, la réunion des jeunes avec Macron, qui ne sont pas les derniers pour la déconne.
Quentin, tu as été référent. Tu pétilles plus que ta région natale, la Champagne.
Je l'ai, elle est délicieuse. Non, vraiment, les jeunes avec Macron, les JAM, comme on les appelle, sont de bons gros farceurs. Écoutez, c'est sans trucage sur quelle musique ils ont accueilli Elisabeth Borne.
On espère que vous avez aimé cette musique d'introduction, Madame la Première Ministre.
Born to be alive, oui. Elisabeth Born to be alive. Ah, c'est extra. Et oui, on est comme ça chez les JAM, on est des rigolus.
Madame la Première Ministre, chère Elisabeth, et j'ose le dire, chère Babette, comme on dit chez les JAM.
Oh, Babette! No, there is one Babette, and she's there. OK, donc doucement, mon petit bonhomme. Mais le meilleur des JAM, c'est lui, oui. C'est le délégué de la classe, c'est Ambroise Méjean, prochainement au Palais des Glaces.
Pour une fois, Jean-Luc Mélenchon préfère être le Père Noël plutôt que le Père Fouettard. Pardon de vous le dire, ce Père Noël, et je pèse mes mots, est une ordure. L'incompétence reste la première caractéristique du Front National. Dès lors qu'il s'agit de faire des propositions sérieuses sur l'environnement, ce n'est plus le parti à la flamme, mais le parti à la flemme.
Tu veux le Patrick ?
Oui, non, je l'ai.
Mais quelle bande de doudingues ! Ils n'ont décidément... on en est où ? Je suis perdu dans mon lancement tellement je me marrais. On en est où ? Ah, ils sont tous morts, malheureusement. C'était lequel qu'on vient de lancer ? Et c'est pas un jeu d'acteur, là. Personne ne répond. Je dois faire le 16. Il n'y a pas à dire, on sait ça. Merci pour tout. On sait s'amuser chez les JAM.
Il y avait beaucoup moins d'applaudissements au bilan comptable du Conseil national, hein, quand même. Hein. Tu m'en rappellerais.
Ouais. Bon... Enfin, je me fous de sa gueule, mais la solitude innée, je l'ai vu qu'il y a 5 secondes, pas plus. Ils n'ont décidément aucune limite chez les JAM.
Je vous ai pas fait du coup le bilan financier austère que nous avions prévu initialement, mais on en parlera ce soir au Balrog avec quelques bulles.
Nous parlerons bilan financier austère au Balrog autour de quelques bulles, mais quel âge ont les jeunes avec Macron ? Il devait y avoir une de ces ambiances au Balrog, une nouba de tous les diables.
Dany Briand, j'adore !
J'ai perdu la tête depuis que
mais non ! J'ai vu Babette comme la première.
Ah oui, bien sûr.
Mais non, mais non. Oh, il y a du jambon de la mer. Je vais vous prendre 3 surimi, s'il vous plaît.
Mais non. Putain, les copains, il y a Olivier Duchâtel au bar à
fête. Oh, putain, je vais faire un selfie. Les copains, je suis caput. Il est 21h50. Tchuss.
Mais non, mais parfois d'un coup, tu vas rater le meilleur.
C'est con, à ça, il a loupé le bilan financier. Allez, à demain, les jeunes.
Bravo, Patrick Jalanois. Merci beaucoup, Virginie Efira. Merci, Roger Zamier, en tant que des autres éléments en salle. Merci beaucoup, Olivier. Éric Toledano, Olivier Nakache, d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Je dois rendre très vite l'antenne, mais on recommande les rencontres du Papotin et l'épopée joyeuse, Canal Plus France 2, pour la bonne cause, dans les deux cas. Si vous voulez bien vous tourner vers Sébastien pour saluer nos téléspectateurs, restez sur France 5 tout de suite avec du commentaire alimentaire. Ce soir, ça chauffe au rayon thé glacé. Voilà. À demain, à 19h en direct. Bisous, ciao.